Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 12 à 21 de la Sainte Sourate Layl. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم.
Certes, oui, à nous de guider. Certes, oui, et à nous l'au-delà et le présent. Je vous ai donc averti d'un feu qui flambe, où ne tombera que le très malheureux, et celui-là même qui crie au mensonge et tourne le dos, alors quand sera écarté le pieux, celui-là même qui donne ses biens pour se purifier, sans que personne lui ait fait un bien dont ce soit la récompense, mais pour la seule recherche du visage de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il va bientôt agréer.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce jeudi 26 août 2021. J'ai le plaisir de vous présenter tout de suite le journal d'information et le commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran reste déterminé à construire un monde sans violence et sans extrémisme. Ansarallah mène une attaque de drones contre Khamis Mushait dans le sud de l'Arabie saoudite et au Niger, 16 soldats ont été tués et 9 autres blessés dans une attaque terroriste dans l'extrême sud-est du pays. C'était les principaux titres. En voici le journal. L'Iran reste déterminé à construire un monde exempt de violence et d'extrémisme, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, rappelant « La République islamique d'Iran, en tant que pays qui a toujours été la cible de diverses formes de terrorisme politique et économique et de terrorisme aveugle, se tient aux côtés de tous les survivants du terrorisme. » À l'occasion de la Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme, le secrétaire général des Nations Unies a publié un message qui a été lu lors du 6e colloque des exemples de la patience consacré aux martyrs du terrorisme à Sanandaj, dans l'ouest de l'Iran. Aujourd'hui, nous nous souvenons et rendons hommage à toutes les victimes et survivants du terrorisme, ainsi qu'à leurs familles et proches, et à ceux qui souffrent encore des blessures physiques et mentales, et communautés et milieux qui sont en permanence intimidés par des actes terroristes. Nous nous tenons debout pour eux, en signe de solidarité, a dit le secrétaire général des Nations Unies. Hossein Amir Abdollahian est le nouveau ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran. Hossein Amir Abdollahian, option proposée par le président iranien Ebrahim Raisi pour assumer le poste de ministre des Affaires étrangères, a obtenu le vote de confiance du Parlement. Il prendra désormais la tête de la diplomatie iranienne. Amir Abdollahian, assistant spécial du président du Parlement iranien pour les affaires internationales et ancien vice-ministre des Affaires étrangères, a obtenu 270 votes pour, 10 votes contre et 6 votes d'abstention de l'ensemble de 296 votes donnés par les parlementaires iraniens. Conseiller du ministre des Affaires étrangères, vice-ministre des Affaires étrangères pour le département du monde arabe et de l'Afrique, chef du département du Golfe Persique et du Moyen-Orient au sein du ministère des Affaires étrangères, ambassadeur de la République islamique d'Iran à Bahreïn, chef de l'équipe spéciale du ministère des Affaires étrangères pour l'Irak, ne sont qu'une petite partie des expériences vécues par M. Amir Abdollahian. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a félicité son nouvel homologue iranien dans un message où il lui a souhaité le succès pour ses responsabilités. je compte sur une coopération conjointe étroite dans le but d'accroître l'interaction des deux pays en faveur des deux nations amies afin de renforcer la coopération, la paix et la sécurité internationale, peut-on lire dans le message. Le président russe Vladimir Poutine a été le premier président à envoyer un message de félicitations de victoire à Ebrahim Raisi, le président iranien, avant l'annonce même des résultats officiels de l'élection présidentielle iranienne. Au Yémen, Nasser Allah a mené une attaque de drone mercredi soir, 25 août, contre Khamis Mushait dans le sud de l'Arabie saoudite. Un porte-parole de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite contre le Yémen a prétendu que la défense aérienne saoudienne avait tiré sur le drone yéménite au-dessus de la région de Khamis Mushait. Les Saoudiens prétendent avoir intercepté le drone yéménite avant qu'il n'atteigne ses cibles. La base aérienne King Khalid est située dans la région et la plupart des avions de combat et des avions militaires de la coalition saoudienne commencent leur mission à partir de cette base. Mercredi encore, Nasser Allah a lancé un sévère avertissement contre les Émirats arabes unis et leur présence sur l'île stratégique de Mayenne, où Abu Dhabi sert de paravent à Israël. La place stratégique de l'île de Mayenne, qui se trouve non loin du détroit de Bab el-Mandeb, constitue la première raison de la présence du régime sioniste et des Émirats arabes unis dans cette zone. L'expulsion des habitants de l'île de Mayenne relève d'ailleurs d'un plan prémédité visant à dominer la voie navigable internationale de Bab el-Mandeb et y harceler la résistance. Or, cela n'arrivera jamais, a déclaré Ahmad al-Rahvi, un avocat d'Ansar Allah, dans une interview à Al-Masira. Tout au début de l'offensive saoudienne contre le Yémen, l'ancien premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait exprimé les inquiétudes du régime sioniste concernant le détroit de Bab el-Mandeb. Et tout au long de ces années de guerre, les Émirats arabes unis ont déplacé les habitants de l'île et construit une base militaire, conformément aux ordres des États-Unis et du régime sioniste. L'ennemi doit tirer une leçon de ce qui lui est arrivé, car nous avons prouvé que notre force pour affronter les occupants au Yémen est nettement supérieure. Et à Mayenne, nous pourrons opérer bien mieux qu'ailleurs, a-t-il indiqué. Nous pourrons opérer bien mieux qu'ailleurs, a dit ce cadre d'Ansar Allah. Les habitants de l'île yéménite de Mayenne, à l'entrée du détroit de Bab el-Mandeb, disent que l'Arabie saoudite a déployé des courtiers sur l'île pour les persuader de quitter l'île en échange de sommes d'argent énormes, une offre que les habitants ont fermement refusée. Au Niger, 16 éléments des forces de défense et de sécurité FTS nigériennes ont été tués et 9 autres blessés dans une attaque menée par Boko Haram contre leur position dans la nuit de mardi à mercredi à Baroua, dans la région de Diffa extrême sud-ouest du pays, a annoncé mercredi le ministère nigérien de la Défense. L'attaque a visé les positions des FTS postées à Baroua, aux environs d'une heure hors locale, par plusieurs centaines d'éléments de Boko Haram venus du lac Tchad, a indiqué un communiqué officiel rendu public mercredi après-midi. La réaction prompte et vigoureuse de nos éléments ont permis de repousser l'attaque et d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi, avec une cinquantaine de terroristes neutralisés et une quantité importante d'armes et de munitions de différents calibres saisies, a précisé la même source. Les localités de cette partie méridionale du Niger subissent depuis plusieurs années les attaques meurtrières de Boko Haram à partir de ses positions du Nigeria. Elles ont fait des centaines de victimes civiles et militaires et plusieurs dizaines de milliers de déplacés tant au Niger qu'au Nigeria, selon les statistiques officielles. Cette attaque intervient alors que les populations d'une vingtaine de localités de la région, parmi lesquelles 6 000 habitants de la commune de Baroua, qui avaient fui leur village en 2015 suite aux attaques meurtrières du groupe terroriste Boko Haram, viennent d'être réinstallées dans leurs villages respectifs, dans le cadre d'une opération initiée par les autorités du pays. Le ministère chinois des Affaires étrangères a fustigé les propos de la vice-présidente américaine Kamala Harris, qui a accusé la Chine d'intimidation en mer de Chine méridionale et de s'appeler l'ordre mondial fondé sur des règles. Le ministère affirme qu'un ordre fondé sur des règles américaines signifiait une intervention arbitraire dans des pays souverains considérant ce qui se passe en Afghanistan. Kamala Harris a réprimandé la Chine lors d'un discours à Singapour mardi, accusant Pékin de coercition et d'intimidation sur la question de la mer de Chine méridionale, affirmant que les actions du gouvernement chinois continuaient de saper l'ordre fondé sur des règles et menaçaient la souveraineté des nations. Le mardi 24 août, lors d'une conférence presse de routine, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a répondu aux remarques de Kamala Harris. Ce qui se passe en Afghanistan démontre clairement que le soi-disant ordre fondé sur des règles des États-Unis est un moyen d'intervention militaire arbitraire dans un pays souverain sans être tenu pour responsable des souffrances des peuples. Les États-Unis peuvent aller et venir quand ils le souhaitent sans consulter la communauté internationale, ni même leurs alliés. Ils peuvent réprimer, intimider ou détruire d'autres pays à volonté sans payer aucun prix, juste pour garder l'Amérique à la première place. C'est l'ordre que les États-Unis veulent imposer aux autres. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Afghanistan. Biden prépare son 11 septembre bis. On le voyait venir. Des milliers de soldats US OTAN stationnés à l'aéroport de Kaboul, des vols militaires à n'en pas finir entre les bases US dans le golfe Persique d'une part et la capitale afghane de l'autre, des milliers de passagers afghans pris de facto en otage sous prétexte d'évacuation humanitaire et qui servent comme partout où s'applique le principe occidental d'ingérence humanitaire. Passagers qui servent non seulement de bouclier humain aux militaires occidentaux, mais encore de paravent aux agents de la CIA et du Mossad, puis un bain de sang tant recherché qui n'a pas eu lieu, et un pentir qui, au lieu de se révolter contre les talibans, préfère le dialogue, et tout ceci sur fond d'efforts iraniens pour arracher des dialogues inter-afghans en cours à un gouvernement élargi et représentatif, surtout que les talibans commencent à parler supra-ethniquement, supra-confessionnellement, puis un président Biden qui parle soudain de la possible apparition de Daesh à l'intérieur de l'aéroport et de sa possible action contre les forces américaines. Mais peu après la diffusion de cette curieuse infox par le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, comme quoi un avion militaire ukrainien aurait été détourné à destination de l'Iran avec à son bord des soldats ukrainiens, certains analystes ont prévu de nouvelles vicissitudes dans le dossier du retrait US d'Afghanistan, car le scénario prévu par Américains et Israéliens ne va pas du tout dans le sens souhaité. Les États-Unis voulaient voir des milliers de réfugiés afghans quitter leurs villes et maisons et s'affluer sur les frontières iraniennes. Or, cette affluence ne se voit pour l'heure que porte des ambassades occidentales à Kaboul et dans les dimensions très réduites, signe qu'il y a très peu de chances pour que les agents terroristes de la CIA et du Mossad puissent s'infiltrer sur le territoire iranien et placer l'Iran, déjà aux prises avec un cinquième pic de pandémie dans ses provinces orientales, face à une crise sécuritaire. Le coup de l'avion ukrainien a d'ailleurs tourné trop rapidement au vinaigre, le ministère ukrainien des Affaires étrangères ayant reconnu que le vol a été en escale en Iran avant de partir pour Kiev. Daesh à l'aéroport de Kaboul, au seuil de l'anniversaire du 11 septembre, n'est-ce pas l'ingrédient nécessaire à un petit 11 septembre bis, avec dans la foulée un retour à la case départ, un redéploiement de troupes US, peut-être pas en Afghanistan, mais dans les pays voisins au nom de la lutte contre le terrorisme. Déjà, la Russie a très clairement annoncé qu'elle s'opposerait à toute présence US dans son arrière-cour centre-asiatique. Puis Poutine vient de le dire qu'il n'est pas dupe par cette évacuation humanitaire de pacotille qui a l'air plutôt d'un trafic de terroristes déguisés. Il a raison surtout quand il entend Biden dire « Nous savons que les terroristes peuvent chercher à exploiter la situation et cibler des Afghans innocents ou des troupes américaines ». La réaction du président russe a d'ailleurs été presque immédiate. Poutine a critiqué mardi le retrait des États-Unis et de leurs alliés d'Afghanistan, car il y a un danger que les terroristes et différents groupes qui ont trouvé refuge en Afghanistan exploitent la situation chaotique créée par les Occidentaux pour étendre leur emprise dans les pays voisins. Cela constituera une menace directe pour notre pays et ses alliés. Poutine a noté que la Russie avait mené une guerre soviétique de 10 ans en Afghanistan, qui s'est terminée lorsque les troupes se sont retirées du pays en 1989. Moscou a tiré le son du conflit et n'interviendra pas en Afghanistan, a-t-il souligné. Nous n'avons aucune intention de nous ingérer dans les affaires intérieures du pays et de plus d'entraîner nos troupes dans le conflit de tous contre tous. Il a également déclaré qu'une éventuelle augmentation du trafic de drogue et des problèmes liés à la migration pourrait constituer une menace pour la Russie, notant au passage que les terroristes pourraient déstabiliser les pays ex-soviétiques d'Asie centrale. La Russie est pratiquement le seul pays qui a réussi à éradiquer de grands groupes terroristes et à détruire leurs gangs affiliés, a noté le président russe dans une mise en garde claire à l'adresse des Américains.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder de cette récente visite effectuée par le ministre japonais des Affaires étrangères à Téhéran. À Téhéran, le ministre japonais des Affaires étrangères Moshihito a abordé avec les autorités iraniennes, très particulièrement le ministre sortant iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et Amir Abdullahian, l'actuel assistant pour les affaires internationales du Parlement iranien qui est proposé par le président Raisi au Parlement iranien pour occuper le poste du futur ministre iranien des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie de Nippon a abordé à Téhéran avec les autorités iraniennes les moyens permettant de renforcer la coopération bilatérale. Il était également question de parler de ce plan global d'action conjoint, l'accord nucléaire de 2015. De ce sujet a été évoqué par le chef de la diplomatie japonaise lors de sa rencontre avec le président iranien Ebrahim Raisi. Ebrahim Raisi qui a critiqué la position adoptée par les États-Unis sur ce sujet, les Américains qui se sont retirés en 2018 unilatéralement de l'accord nucléaire. Et s'agissant de la position adoptée par les Européens, l'Iran reproche aux Européens de ne pas respecter, si vous voulez, les engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015. Pour vous en parler, j'ai le plaisir avec moi pour cette émission un économiste, analyste politique, M. Xavier Dupré. M. Dupré, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, c'est moi qui vous remercie, ça fait très longtemps. C'est un plaisir.
Et l'autre vie, ça fait un bail quand même, ça fait un bail, mais c'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau pour parler de cette visite à Téhéran du ministre nippon des Affaires étrangères. L'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un analyste politique français qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Il s'agit de M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Merostine, bonjour à tous vos auditeurs et je suis très heureux aussi de retrouver M. Dupré.
Merci. M. Dortiguier, si vous le permettez, on va commencer notre émission d'aujourd'hui avec M. Dupré. Oui. M. Dupré, je viens de lancer le sujet, cette visite à Téhéran du chef de la diplomatie iranienne. Quelle analyse portez-vous sur cette visite à Téhéran du ministre nippon des Affaires étrangères, s'il vous plaît?
Alors je crois que dans un tout premier temps, il faut relever le fait que le chef de la diplomatie nippone a, à l'occasion de cette rencontre, dénoncé les exigences excessives des États-Unis. C'est un point important, puisqu'un poids lourd de l'économie mondiale, qui par ailleurs est un pays asiatique, le Japon, dénonce aujourd'hui en réalité un double discours de la part des Occidentaux. D'un côté, il y a Joe Biden qui a été élu sur la promesse de relancer des négociations constructives avec l'Iran. Ça, c'est du côté du discours officiel, mais du côté de la pratique, on observe depuis son entrée en fonction très peu de volonté de faire aboutir un dossier qui n'aurait jamais dû poser problème, puisqu'il faut quand même rappeler que le retrait des États-Unis a été unilatéral et contraire au droit international. Il suffisait, dès son entrée en fonction, de se démarquer profondément de son prédécesseur. Il ne l'a pas fait. Et autre double discours des Occidentaux, là, c'est du côté des Européens. Les grands pays européens, la France, l'Allemagne, dénoncent du bout des lèvres, seulement les manquements de la partie américaine, mais n'ont jamais, de leur côté, refusé l'application des sanctions. L'ensemble des acteurs économiques européens appliquent des sanctions. Et on a vu quelques bricolages avec Instex, notamment du côté de la Commission européenne, mais jamais les Européens n'ont refusé, n'ont opposé un refus à l'interdiction qui leur avait été faite d'importer du pétrole iranien, de telle sorte que le mécanisme Instex ne pouvait pas fonctionner, puisque la partie iranienne ne pouvait pas légitimement en retirer un bénéfice économique légitime. Donc voilà, je crois que c'est un élément très important. Cela pourrait annoncer aussi une forme de déblocage de fonds qui se trouvent aujourd'hui auprès des banques nippones pour 3 milliards de dollars et qui sont bloqués suite aux sanctions unilatérales injustes et illégales qui ont été remises sur la table par Washington en 2018. Donc c'est un signe très positif. Il y a aujourd'hui dans le camp des grandes nations industrialisées des gens qui ont peut-être le courage que nous, Européens, n'avons pas eu de contester quant au fond, et pas seulement quant à la méthode, l'approche des États-Unis.
Monsieur Dortiguet, vous avez été d'écouter l'analyse de Monsieur de Dupré. S'agissant de la position européenne, Monsieur Dupré estime que les Européens ont critiqué les manquements de la partie américaine s'agissant, si vous voulez, de cet accord nucléaire de 2015 et de ce retrait unilatéral des États-Unis de cet accord en 2018 et qui est contraire au droit international, comme l'a dit Monsieur Dupré. Mais Monsieur Dupré dit que c'est vrai, les Européens ont critiqué les manquements de la partie américaine, mais ils ont refusé également l'application des sanctions contre l'Iran. Est-ce de votre avis également, M. Dortiguet?
Oui, en effet, ils ont refusé l'application des sanctions contre l'Iran. C'est-à-dire qu'ils ont, les Européens sont dans une très mauvaise situation. Il y a une partie que des Européens comme nous, en France par exemple, qui sommes entravés par notre situation désastreuse du point de vue financier. Et donc, nous ne pouvons pas, bien sûr, si je puis dire, donner suite à des raisonnements justes. On ne peut pas, disons, obliger les Américains à appliquer ce qu'est la justice, car nous avons nous-mêmes été victimes, vous savez, nos banques l'ont été en tout cas, des sanctions américaines, sanctions tout à fait grossières, bien sûr, contre nous, pour des banques qui, selon les Américains, enfreignaient le blocus financier. Pour d'autres pays qui sont comme l'Italie, l'Allemagne, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus aussi engagés que nous, parfois même davantage avec l'Iran, il y a également des pressions très fortes. sur l'Allemagne, ces pressions sont évidemment peut-être plus difficiles, mais elles sont réelles. Il y a plusieurs moyens, disons, de faire taire, le gouvernement occidentaux. Ce sont des pressions de tous ordres, hein. Pas seulement économiques ou financières, mais il y a également des pressions politiques. Il y a également aussi, des personnes qui sont très liées, évidemment, aux antisionistes et autres, qui bloquent, évidemment, qui essaient de paralyser nos relations. C'est pour cela que nous avons, pour dire brièvement, salué, nous, avec vraiment grand soulagement et un grand espoir, surtout, cette initiative japonaise, cette critique japonaise, voyez-vous, en tenant compte du fait que, justement, depuis quelques temps, nous remarquons que le Japon a des initiatives très heureuses en Asie pour pouvoir, disons, constituer une force autonome qui soit, ils sont obligés, vous savez, de subir le parapluie américain. Nous voyons très bien que le Japon est uni, en tout cas dans la défense de ses propres intérêts, et donc comprend les intérêts de l'Iran, avec lequel il a toujours été en excellente relation sous tous les régimes, je me permets de le signaler, y compris avec l'Afghanistan. Le Japon, à mon avis, a toujours été très sérieux, très honnête avec l'Iran, et je crois que ça... M. Dupré a fait allusion, bien sûr, à ce blocage financier qui est imposé par les Américains aux Japonais, et les Japonais, bien sûr, trouvent ceci, comme nous tous, bien sûr, tout à fait absurde. Ce n'est pas simplement une position de force et de violence, c'est une position qui est absurde du point de vue de la durée des relations internationales. Alors nous demandons, c'est la question que nous posons, qu'est-ce qui empêche les Américains, disons, d'œuvrer dans le sens du réalisme? Est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes entravés par des forces externes et internes qui leur empêchent, disons, qui les empêchent, de voir les choses comme elles sont? Et en tout cas, j'insiste que pour nous, cette déclaration du ministre des Affaires étrangères japonais est un signe d'espoir. Un signe d'espoir pour vous, pour l'Europe aussi. Et je crois qu'on ne souligne pas suffisamment, on le dit quelquefois, mais qu'on ne souligne pas suffisamment justement cet exemple d'indépendance que le Japon a manifesté en dépit des occupations, en dépit de toutes les humiliations qu'il a subies, y compris à Fukushima. Parce que l'histoire de Fukushima, on sait très bien maintenant qu'elle n'est pas innocente. Disons, les Américains ont joué là-dessus pour voir. Pour briser justement des volontés d'indépendance japonaise. En tout cas, c'est un grand espoir.
Nous avons perdu, semble-t-il, notre liaison avec Toulouse, avec M. d'Ortiguet. M. de Dupré, vous l'avez dit en quelque chose, que les Européens critiquent les manquements de la partie européenne. Même chose pour les Japonais également. M. Dupré, alors les Européens et les Japonais également sont en quelque sorte, comme l'a dit M. d'Ortiguet, victimes de cette politique hégémonique américaine, parce qu'ils ont peur des sanctions américaines, monsieur de Dupré, n'est-ce pas?
Oui, ça c'est très clair. Nous sommes dans une situation de dépendance hégémonique. Ça c'est très évident. Cependant, je pense qu'à l'intérieur de la dépendance, il y a toujours moyen de se ménager des marges d'autonomie. Je rappelle que nous étions en Europe très dépendants sur le plan militaire des États-Unis dans les années 60. Et c'est à cette époque que le général de Gaulle, en France, avait aménagé une forme d'autonomie militaire assez importante, assez conséquente d'ailleurs, pour la France. Donc on peut être dépendant, mais on n'est pas complètement dépendant non plus. Et sur le point qui était évoqué ici, il est vrai que les grandes banques européennes, et je pense notamment à la banque BNP Paribas, une banque française, avait dû régler plusieurs milliards de dollars d'indemnisation pour avoir effectué des paiements et des transactions donc avec l'Iran. Cependant, la Commission européenne, lorsqu'elle avait monté un STEX, avait quelque part créé une banque qui était une caisse de compensation qui était exclusivement libellée en euros. Donc, il n'y avait pas spécialement de crainte à avoir de sanctions, puisqu'il n'y avait aucun mouvement de compensation qui était effectué en dollars. Tout se passait en euros. Mais il est vrai que la résistance politique, pour l'instant, nous fait défaut en Europe, spécialement vis-à-vis de Donald Trump, qui avait toujours tendance à dire aux États européens, eh bien, si vous ne faites pas, en matière de politique étrangère, ce que nous, États-Unis, désirons, vous devrez payer une partie de votre défense. C'était peut-être l'occasion à cette époque pour les Européens de revisiter, remettre en cause leur dépense militaire, leur dépendance militaire à l'égard des États-Unis et d'avoir un autre rapport avec la Russie. On a, passez-moi l'expression, loupé cette opportunité. Bon, voilà. Mais c'est vrai, nous sommes victimes de... Nous sommes sous hégémonie américaine, mais il y a toujours moyen, même quand on est sous hégémonie, de s'aménager des zones d'autonomie. Et ça, je crois que ça a été une erreur de la diplomatie européenne, et ça correspond clairement à un manque de volonté politique. Il y a un manque de volonté politique aujourd'hui, et qui correspond globalement à la perception d'un danger qui viendrait de la Russie. On a besoin d'être protégé par les Américains, alors que l'avenir de notre continent est un avenir eurasiatique, dans le prolongement des routes de la soie avec la Chine. C'est l'avenir économique de l'Europe occidentale, pourrais-je dire.
Monsieur de Dortillet, Monsieur Dupré, en fait, l'a dit à Téhéran, le ministre nippon des Affaires étrangères a dénoncé les exigences excessives des États-Unis. Vous l'avez qualifié vous-même d'un espoir pour l'Iran, également pour l'Europe, les relations entre l'Iran et l'Europe. Et M. Dupré estime que, saisissant, si vous voulez, des moyens permettant à l'Europe de renforcer son indépendance économique également, c'est de se tourner vers des pays comme la Russie et la Chine. M. Dupré estime que, voilà, l'avenir du continent européen se trouve désormais dans, si vous voulez, l'Eurasiatique. Et est-ce votre avis également, c'est-à-dire que de ces déclarations du ministre nippon des Affaires étrangères renforce l'espoir d'aller vers, si vous voulez, de cette émancipation si vous voulez, l'hégémonie américaine en ce qui concerne les Européens, les Iraniens, les Japonais, les Asiatiques et le reste du monde?
Oui, oui, en effet, M. Norostin, vous savez que la formule du général de Gaulle, du président de Gaulle, était l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Ensuite, vous avez, on a dit, de l'Atlantique, non pas jusqu'à l'Oural, jusqu'à Vladivostok. En réalité, ce sont des puissances réelles. Des puissances, il faut que les peuples vivent tels qu'ils sont et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. C'est-à-dire tels que quelques groupes financiers qui dirigent la planète ou qui ambitionnent de diriger la planète voudraient le faire. Ceci est une vision très subjective et qui se heurte à la réalité. De ce point de vue, le Japon, qui a été, vous savez, frappé de façon odieuse à la fin de la guerre, qui a été occupé, qu'on a voulu humilier, a toujours montré un caractère, disons, un exemple de fierté et d'indépendance, ne serait-ce qu'en conservant ses institutions traditionnelles, et aussi, malgré cette occupation très dure, malgré la guerre de Corée et tout ça, justement, nous donne cet exemple de, comment vous dire, de respect de soi-même. Je crois que c'est cela, cette morale-là dont on a besoin. On n'a pas besoin seulement de règles économiques, on a besoin également de règles morales, de sentiment du devoir. Et c'est pour ou d'exemples, disons, qui vont dans ce sens, qui aillent dans ce sens. Je crois que cette déclaration du ministre nippon d'Affaires étrangères fera date dans l'histoire et qu'elle est réaliste, on ne peut pas dire autre chose. C'est-à-dire qu'elle montre que nous ne vivons que par la crainte, que sous la crainte que nous inspirent des gens, mais qui sont en réalité des craintes qui ne s'appuient sur rien, qui ne s'appuient pas sur la réalité. Les Américains n'ambitionnent aucunement, évidemment, d'écraser l'Europe à coups de bombe. Mais ce sont des intimidations, disons, que nous avons. Et contre l'intimidation, il faut opposer le courage. Voilà exactement, disons, ce que je retirerai comme conclusion, disons, comme leçon, disons, de cette intervention japonaise. elle doit servir d'exemple, de courage, de réconfort et de leçon, y compris surtout à nos jeunes générations.
Monsieur Dupré, à Téhéran, Amir Abdullahian, l'assistant actuel dans les affaires internationales du président du Parlement iranien, qui est proposé, comme je viens de le dire tout à l'heure, par le président Raïsi au Parlement iranien pour occuper le poste du futur ministre iranien des Affaires étrangères. Lors de sa rencontre avec le ministre nippon des Affaires étrangères, s'agissant de ses négociations de Vienne, a dit que voilà, l'Iran n'est pas opposé aux négociations, mais l'Iran exige que ces négociations aboutissent aux résultats tangibles. L'Iran n'est pas pour des négociations c'est-à-dire des négociations à l'usure. Comment expliquer cette position de M. Amir Abdullahian, qui sera très probablement le futur ministre iranien des Affaires étrangères après le vote de confiance des parlementaires iraniens?
Je crois que cette position est une position très cohérente, puisqu'en réalité, les États-Unis, jusqu'à présent, n'ont jamais démontré leur volonté réelle de débloquer le dossier. Et donc, il faut pouvoir, face aux États-Unis, faire preuve de fermeté pour obtenir des résultats. Si vous voulez, il faut surtout, quand on est en négociation serrée avec les États-Unis, j'ai presque envie de dire, ne pas ressembler aux dirigeants européens actuels, qui ont très vite tendance à accepter les termes de la négociation, à se laisser enfermer quand ils ont des revendications dans des négociations qui durent très longtemps pour n'aboutir souvent qu'à très peu de résultats, des résultats très insatisfaisants. Donc c'est une position qui est une position qui permet réellement d'obtenir des concessions de la part des États-Unis. De toute manière, je crois qu'il faut être très clair en termes, vraiment, en prenant un maximum de recul et d'objectivité par rapport au dossier. Si Joe Biden, président des États-Unis, disposant d'une majorité au Congrès, dans les deux chambres, Chambre des représentants et au Sénat, avait réellement voulu faire avancer ce dossier, nous serions, on ne serait pas du tout dans ce cycle qui a l'air de se répéter et de se répéter. Donc je pense que la fermeté iranienne est finalement le meilleur gage pour aboutir à des résultats, puisque les États-Unis ont tendance à vouloir en commissionner les choses de manière à ne pas léser certains de leurs amitiés au Proche-Orient, amitiés qui sont vis-à-vis de l'entité sioniste ou de l'Arabie saoudite, mais qui sont quand même tendues. Ce sont des pays qui ont des relations tendues avec l'Iran et ils n'ont pas envie de s'aliéner ses alliés. Et donc, forcément, ils ont tendance à vouloir faire traîner les choses. Il faudra quelque part, passez-moi l'expression, secouer le cocotier, imprimer une forte dose de cohérence et de fermeté pour obtenir des résultats. Je ne vois que cela comme technique de négociation.
Monsieur Tortiguet, très très rapidement, s'il vous plaît, en une phrase, parce que nous avons une minute devant nous. Est-ce que vous aussi vous estimez, tout comme Monsieur Dupré, que la fermeté face aux États-Unis et de la part de l'Iran, c'est le meilleur gage pour obtenir des résultats tangibles?
Oui, en effet, car les négociations ne doivent pas être, comme le veulent les États-Unis et leurs amis, un horizon de chantage permanent contre l'Iran. Elle doit être quelque chose de réaliste et non pas du tout une pression constante. Voilà exactement. Il faut sortir, disons, des fantômes, des fantasmes pour toucher à la réalité. Monsieur Dupré l'a très bien dit, et je crois que c'est ce que veut dire aussi, c'est ce que veut dire également le ministre nippon des Affaires étrangères, et je crois que de ce point de vue, l'Iran a très très bien compris, c'est où sont ses amis, c'est que la force de l'Iran est dans la réalité, et non pas dans, disons, l'abaissement devant un chantage qui serait indéfini.
Pierre Dortiguet, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi en ligne pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à vous, Xavier Dupré, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
l'idéologie et la pratique des courants takfiristes. L'Agence européenne de police Europol vient de publier un rapport sur la présence des groupes takfiristes sur Internet. Principal enseignement, alors qu'elles perdent du terrain dans leur zone, les organisations takfiristes misent sur la propagande en ligne afin d'inciter leurs sympathisants à passer seuls à l'attaque. En perdant des territoires, le groupe Daesh a également perdu des moyens financiers et humains pour entretenir son image sur Internet. Dans son troisième rapport sur la propagande takfiriste en ligne, l'Organisation européenne de police criminelle, Europol, note un recul des messages émis en ligne par Daesh, que ce soit les communiqués officiels, les magazines, les vidéos ou messages audio. Mais le groupe Daesh ne renonce pas à une présence sur le web pour autant. Il en appelle à ses sympathisants pour faire circuler au maximum son idéologie. L'objectif atteint, selon Europol, à peine supprimé par les autorités compétentes, les sites relayant les messages de l'organisation renaissent sous un nouveau nom de domaine à l'initiative de particuliers adhérents à sa cause. Le tout appuyé par des spécialistes de cyberespace. L'un d'eux, spécialisé dans la sécurité, est même allé jusqu'à organiser des réunions hebdomadaires en ligne et proposer des discussions en plusieurs langues afin de conseiller les animateurs de pages des takfiristes et leur permettre de rester sous les radars des services antiterroristes. L'un des principaux objectifs de cette propagande est d'inciter ceux qui seraient sensibles à passer à l'acte et perpétrer un attentat seul, sans appui logistique ou appel direct au groupe Daesh. Il s'agit pour l'organisation de toucher un plus grand nombre de sympathisants potentiels derrière leur ordinateur. Des internautes souvent jeunes, à l'image de l'auteur de l'attaque contre Samuel Paty en octobre 2020, dont aucun service spécialisé n'avait perçu les funestes projets. Dans le but d'atteindre un maximum de personnes respectives à ces messages, l'organisation Daesh appelle donc à relayer son idéologie, souvent via messagerie cryptée, mais également par des vecteurs plus inattendus, tels que les plateformes de jeux vidéo en ligne et leur espace de discussion, ou les sites de partage de photos. Europol organise d'ailleurs régulièrement des opérations auprès de ces lieux hébergeurs afin de les amener à faire le ménage sur leur site. Rivalité entre organisations. Si Internet représente un instrument de recrutement majeur pour les groupes takfiristes, il est aussi un terrain de conflit ouvert entre ces mêmes organisations. Le groupe Daesh diffuse ainsi de nombreux messages visant à affaiblir la crédibilité des différentes branches d'Al-Qaïda, ouvertement accusées de s'éloigner de l'idéologie takfiriste. Une fois, elle accuse les dirigeants d'Al-Qaïda d'être de mèche avec l'armée yéménite. Une autre, après qu'Al-Qaïda met en ligne 4 vidéos dans lesquelles elle dénonce la présence d'espions dans ses rangs, le groupe Daesh diffuse l'information selon laquelle Al-Qaïda tuerait les siens pour les soupçons d'espionnage fondés sur de seules rumeurs. De son côté, Al-Qaïda choisi de se présenter comme moine extrémiste que son concurrent, essayant de se donner l'image d'un groupe rejetant le meurtre de civils musulmans. En ne revendiquant pas toutes ces attaques, le groupe essaye de nouer des liens avec les populations locales afin de s'y implanter. Mais l'organisation et ses branches locales n'ont même pas moins une propagande intense en ligne via une agence de communication dédiée. Cette dernière a même lancé une application pour téléphone portable présentée comme le plus puissant et rapide service d'information takfiriste. Le groupe Daesh appelle à entretenir le climat d'incertitude et frapper des sociétés occidentales décrites comme affaiblies par la pandémie de COVID-19. L'organisation a consacré de nombreuses diffusions à la situation sanitaire présentée comme le pire cauchemar des croisés. Au mois de mai, le porte-parole de l'organisation parle, dans un des trois messages audio qu'il a émis en 2020, de punition divine. Mais la propagande n'est pas faite que de vocabulaire martial et appelle aux attaques sanglantes. Le groupe Daesh utilise également Internet pour prodiguer des conseils sanitaires, façon d'essayer de montrer à ses sympathisants potentiels, toujours dans cet objectif de communication, que l'organisation est en mesure de prendre soin des siens et gouverner un éventuel califat. Le Burkina Faso a débuté jeudi un deuil national de 3 jours, au lendemain d'une attaque terroriste dans la région du Sahel. Les gendarmes et les supplétifs civils des volontaires pour la défense de la patrie, qui escortaient des civils victimes de précédentes attaques, ont été piégés dans une embuscade. 80 personnes, 65 civils et 15 gendarmes ont été tués lors de l'attaque terroriste mercredi contre un convoi militaire escortant des civils dans le nord du Burkina Faso, selon un nouveau bilan officiel communiqué jeudi soir. Selon un bilan réactualisé, 65 civils ont perdu la vie dans cette attaque terroriste, précise un communiqué du ministère de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ousseini Tamboura. Les 65 civils tués sont 52 hommes, 7 femmes et 6 supplétifs des volontaires de la défense de la patrie, VDP. 64 ont été inhumés jeudi à Arbinda, dans la région du Sahel, où a lieu l'attaque. Le gouvernement renouvelle ses condoléances aux familles éplorées et félicite les forces de défense et de sécurité et VDP pour leur action qui a permis de neutraliser plus de 58 terroristes selon un décompte final, selon le communiqué. Les gendarmes sont très touchés par la perte de nos 15 frères d'armes, mais fiers du combat qu'ils ont livré et qui a permis de mettre en déroute plus de 400 terroristes, neutraliser plus de 80 d'entre eux et récupérer un important stock de matériel, d'armes et de motos, a de son côté indiqué le service de communication de la gendarmerie nationale. Depuis le début du mois d'août, 94 civils, militaires et supplétifs de l'armée sont morts dans des attaques attribuées à des groupes takfiristes dans le nord et le nord-est du Burkina Faso. Pays pauvre d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso est en proie depuis 2015 à des attaques takfiristes régulières et meurtrières, en particulier dans les régions du nord et de l'est, comme ses voisins le Mali et le Niger. Souvent couplées à des embuscades, ces attaques ont fait plus de 1 500 morts et contraint plus de 1,3 million de personnes à fuir leur foyer.